France Culture.
Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la conservation, de la préservation, de la protection même des patrimoines, du patrimoine de l'humanité, des patrimoines culturels, et pas uniquement, et tout particulièrement de certains patrimoines mutilés dans les contextes islamiques, dans la région arabe. Et pour parler de ce sujet, il n'y a pas mieux que Mounir Bousnaqi. Mounir Bousnaqi, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes vraiment un homme passionné et l'homme de ce sujet, sans aucune approche dithyrambique des choses. Vous êtes l'un des spécialistes mondiaux, si ce n'est le spécialiste mondial, de la conservation et de la restauration même du patrimoine. Eu égard à votre trajectoire de vie, vous êtes archéologue de formation, et puis les choses de la vie ont fait en sorte que vous avez été à l'UNESCO pour finir d'être le sous-directeur général de la culture. Par la suite, vous avez été élu à la tête de l'ICROM, cet organisme qui est le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels. Le M dans IRCOM renvoie à monument ou à musée.
Non, à Rome.
À Rome, tout court.
Oui.
Et puis, par la suite, maintenant vous êtes conseiller des différents directeurs successifs jusqu'à l'actuel de l'UNESCO pour les questions culturelles. Et vous voyagez de par le monde, toujours avec cette passion de la préservation de ces biens de l'humanité, ces biens culturels, ces monuments, ces vestiges qui à la fois nous renvoient au passé mais qui nous parlent tellement maintenant. Comment est-elle née d'abord cette passion, Mounir Bousnaqi ?
Très jeune, quand j'étais au lycée, un de mes professeurs d'histoire m'a demandé si je pouvais aller avec lui le samedi et le dimanche sur un site qui se trouve dans la partie occidentale de l'Algérie, au nord de Tlemcen. Il y avait un chantier qui était ouvert pour une route qui allait jusqu'à Marnia. Et lorsque les gros travaux ont été entrepris, ce professeur, M. Vandenov, qui était professeur d'histoire au lycée de Tlemcen, m'a demandé de participer aux fouilles. Et j'ai donc commencé à travailler sur la question de la recherche archéologique très jeune, en classe de première et de terminale. Et on a trouvé effectivement un site avec... le nom du site était Sigus, et nous avons eu un grand professeur de la période romaine, le professeur Pierre Salama, qui était professeur de droit romain à l'Université d'Alger et qui était aussi archéologue dans le site de Cap Matifou, qui s'appelait Rusgunier, à l'est d'Alger. Et ensuite, quand j'ai fini mes études secondaires, j'ai fait une licence d'histoire et de géographie, et j'étais très vite passionné par ce qui se faisait dans le domaine de la recherche archéologique avec des personnalités de haut niveau.
Vous aviez eu comme professeur André Mandouze.
André Mandouze, Paul-Albert Février, Noël Duval, ce sont des grandes personnalités qui ont travaillé essentiellement sur les sites d'époque antique et particulièrement sur la période paléochrétienne. Et puis j'ai eu la chance d'être le premier conservateur du site de Tipaza après l'indépendance. Et j'ai eu la chance, grâce à un projet de Fernand Pouillon, qui avait projeté, à la demande du ministère du Tourisme, de projeter deux hôtels, un à l'entrée est de Tipaza, l'autre à la sortie ouest de Tipaza. Et le second hôtel, lorsque les travaux de pour les tranchées, pour faire les fondations, ont commencé, les ouvriers avec lesquels je travaillais, à Tipaza, m'ont alerté. Et j'ai fait quelque chose qui, aujourd'hui, peut-être est un peu exagéré. J'ai emmené les étudiants de la faculté d'Alger. J'étais assistant à la faculté d'Alger auprès du professeur Paul-Albert Février. Et j'ai montré une destruction de site. Et j'ai eu la chance d'être vu par un visiteur de haut niveau, l'ancien conseiller de la présidence, Mohamed Yazid, qui m'a dit « qu'est-ce qui se passe ici ?» Et je lui ai dit « écoutez, ici, il y a une destruction de site et c'est triste parce que nous sommes devant l'un des sites prestigieux de la côte algérienne et ce serait bien qu'on puisse le préserver. » Et j'ai fait quelque chose qui était à l'époque une chose un peu hardi, il m'a dit, donc je lui ai demandé d'abord à qui ai-je l'honneur. Il m'a dit, je suis conseiller à la présidence, si vous voulez m'envoyer un rapport. J'ai envoyé un rapport et nous avons été convoqués, mon directeur, Sid Ahmed Barly, et moi-même, à la présidence. Et c'est à la présidence qu'on m'a donné un budget pour faire ce qu'on appelle une fouille de sauvetage. Et cette fouille de sauvetage, au bout de 3 mois, a montré un nouveau cimetière qui n'avait pas été vu auparavant. Il n'y avait pas les techniques d'aujourd'hui de repérage par radar, par géoradar, etc. Il fallait fouiller pour trouver. Et là, on a trouvé très vite un nouveau cimetière qui ne ressemblait pas exactement aux autres cimetières de Tipaza. Il y en a plusieurs. Il y a le cimetière qui est à l'est, qui s'appelle le cimetière de la colline de Sainte-Salsa, le cimetière de l'ouest, qui est le cimetière de l'évêque Alexandre. Donc, il y avait déjà une connaissance très profonde depuis les écrits de Stéphane Xell, du début du siècle dernier. Il a fait d'ailleurs sa thèse en latin sur Tipaza. Ensuite, tous les grands archéologues, Albertini, Leschi, etc., sont tous passés à Tipaza. Ils n'avaient pas vu cette partie-là. Et j'ai découvert des tombeaux très bien aménagé, et surtout, la découverte qui a fait un peu de bruit sur le plan, disons, de la communication, c'était une tombe avec ce qu'on appelle une mensa, c'est-à-dire une table, où les fidèles, entraient, après avoir enterré le mort, recouvraient la tombe avec une mosaïque, et faisait couler de l'eau sur cette mosaïque. Donc il y avait deux types de rites très importants qui étaient connus par les textes, et notamment par les textes de saint Augustin. Mais là, on a trouvé à la fois les emplacements d'arrivée de l'eau, donc les canalisations, et surtout la mosaïque, qui a donné vraiment une grande attention à tous les archéologues spécialistes de la fin du IVe siècle. On a pu dater la mosaïque, où il était écrit en latin, « In Christo Deo, Pax et Concordia, sit convivio nostro ». Et alors j'ai reçu la visite de Monseigneur Duval, la visite de l'abbé Berenguer, la visite de l'abbé Scotto, qui est devenu évêque par la suite, et puis j'ai reçu également Monseigneur Saxer de l'Institut Pontifical. Ils ont tous considéré que c'était une découverte importante et qu'il fallait donc continuer la fouille. Cela m'a permis de travailler pendant 4 ans, entre 1968 et 1972, à la découverte d'une toute nouvelle nécropole de Tipaza, qui a été aussi l'objet de ma thèse que j'ai soutenue en 1973 à Aix-en-Provence.
Bien, je vois, cher Mounir Bousnari, comment la vocation est née, et après, si on revient à la folie meurtrière des guerres effroyables et dévastatrices, depuis les guerres puniques, nous nous rappelons tous,
bien sûr,
d'une manière livresque, de la destruction de Carthage, surtout la troisième guerre punique.
Oui, Delenda est Carthago.
Et d'autres continuent à dire non Delenda Carthago, puisqu'elle y est encore là.
Exactement.
Et puis, en ce qui concerne, j'allais dire, les contextes islamiques, la destruction de Bagdad le 10 février 1258 par Hulagu, le petit-fils Genghis Khan, et puis plus proche de nous, la folie de Hitler quand il voulait détruire Paris, Dresde sous les bombes, le musée de Beyrouth, Dubrovnik ou Raguse.
Oui.
Il y a une histoire particulière vous concernant avec le pont de Mostar. Et on verra, parce que ce qui est un crime contre la culture et contre l'humanité, ce sont les destructions des Bouddhas de Bamiyan et le rôle que vous avez joué pour empêcher, en tout cas ce crime ou ce qui a pu l'être, et surtout ce qui s'est passé à Palmyre ou ce qui s'est passé à Mossoul. D'abord, pour Mostar, j'allais vous laisser le dire vous-même, mais c'est moi qui anticipe en disant à nos amis que votre nom patronymique, Bouchnaki, renvoie Bouchnak, c'est un peu le gentilé de Bosniaque. Et indépendamment de cela, vous avez joué un rôle important dans la restauration du pont de Mostar.
Je crois que vous avez montré que la destruction du patrimoine n'est pas une chose qui est née avec notre période, la période contemporaine. Elle a existé pendant tous les conflits, toutes les guerres, à la fois de l'Antiquité, du Moyen-Âge.
Mais à ce sujet, pardon, je vous interromps, c'est Polybe l'hyparque Polybe, le général qui commande une hyparchie, qui disait que la guerre contraint à détruire, c'est vrai, les forteresses, les forts, les villes, les navires et tout ce qui peut affaiblir l'ennemi et réduire ses forces. En revanche, personne ne pourrait nier que s'abandonner à la destruction inutile des temples, des statues et autres choses sacrées, c'est une action qui relève de la folie.
Absolument. Alors, ce qui s'est passé, c'est essentiellement la conception que l'UNESCO a produite et promue, celle du respect du patrimoine culturel. Et ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Le premier texte juridique, qui est le premier traité international que l'UNESCO a préparé, c'est la convention dite de La Haye, puisqu'elle a été adoptée à La Haye, en 1954, concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Et elle a été rédigée par des juristes qui avaient vu, comme vous l'avez souligné, les destructions de la Seconde Guerre mondiale, Dresde, Varsovie, les environs de Paris. Et cela, si vous voulez, a quand même créé une sorte de sursaut au niveau international. Et l'UNESCO avait considéré qu'il fallait un texte qui allait régir la protection du patrimoine en cas de conflit armé. Ce texte, malheureusement, était destiné à traiter des conflits entre États. Or, ce que nous avons vu venir, et notamment pendant la période où j'ai travaillé à l'UNESCO, à partir de 1980, ce qu'on a vu, ce sont des conflits à l'intérieur des États. On a vu se développer une guerre civile au Liban. On a vu se développer une sorte de guerre civile à l'intérieur de l'ex-Yougoslavie. On a vu se développer un conflit en Afghanistan. Et là, le texte de la Convention n'était pas suffisant et ne pouvait pas être présenté au tiers. C'est pour ça que...
Et le pacte de Roerich ne s'appliquait pas.
Ne s'applique pas non plus. Et donc, on a préparé ce qu'on a appelé le second. Parce que la Convention, quand elle a été adoptée avec un premier protocole. Et pendant la période où j'ai travaillé à l'UNESCO, nous avons préparé un second protocole à la Convention de 1954 pour essayer de répondre à des situations inédites qui étaient les guerres intestines à l'intérieur du pays. Alors, la Yougoslavie, comme vous le savez, a souffert d'une guerre terrible. J'ai été envoyé comme ma première mission, je l'ai faite d'abord en Croatie, dans la petite ville de Vukovar, qui était occupée par les Serbes. Donc, ce sont les militaires serbes qui m'ont protégé pour aller voir l'église orthodoxe, pour aller voir l'église catholique, mais surtout le musée de Vukovar qui a été vidé et dont les objets avaient été transportés à Belgrade. J'ai donc continué ma mission de Vukovar jusqu'à Belgrade et là j'avais des amis archéologues serbes, on s'est réunis et qui m'ont assuré que c'était une protection qui avait été faite pour les objets. C'est un peu ce qui a été fait lorsque les Irakiens ont envahi le Koweït et où ils ont vidé le musée du Koweït et tous les objets ont été transportés à Bagdad. Et c'est à Belgrade que la ministre de la Culture de l'époque, donc 1992, m'a dit, vous savez, la situation est instable et nous avons très peur que le conflit qui a commencé avec l'attaque pour la première fois dans l'histoire d'un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial, la ville de Dubrovnik, a été bombardée. Et donc, nous avons eu, à l'époque, comme directeur général, Monsieur Federico Mayor, et il a immédiatement envoyé une mission. Je me suis rendu sur place et on a trouvé les moyens de réparer notamment les toitures des monastères de Ragusa, de Dubrovnik. Et ça a été une des premières actions sur un site du patrimoine mondial touché par un conflit. La presse s'en était émue, il y avait des articles à la fois ici en France, mais aussi ailleurs. Mais immédiatement après, en 1993, le conflit s'est transféré sur la partie de la Yougoslavie qui s'appelle la Bosnie-Herzégovine. Et là, il y a eu le siège de Sarajevo et il y a eu l'attaque très grave contre la ville de Mostar. J'ai donc été envoyé, en même temps que le directeur du patrimoine culturel du Conseil de l'Europe, nous avons pu entrer dans la ville de Mostar avec l'unité espagnole des casques bleus. Donc on était protégé par les casques bleus de l'ONU. Mais on a vu une ville complètement détruite avec un pont qui était un pont piétonnier totalement détruit. Ça a été un peu le choc aussi après Dubrovnik, le pont de Mostar qui était un symbole et qui a disparu dans les flots de la Neretva. Et là, il y a eu là aussi, une levée de boucliers de la communauté internationale. Et nous avons reçu des fonds de la Banque mondiale. Il y a eu des fonds de la Fondation Aga Khan, de l'Italie.
Cela a coûté 12 millions et demi de dollars.
C'est ça. Et on a monté une opération très vite parce que quand j'ai visité la ville détruite, mais il y avait quand même deux mairies. Il y avait la mairie de Mostar Est et la mairie de Mostar Ouest. Et les deux maires étaient d'accord sur un point, est-ce que l'UNESCO peut restaurer le pont de Mostar? Et ça a été l'objet de plusieurs années de travail, jusqu'en 2004, quand le pont a été restauré, avec des moyens très très sophistiqués, et avec un comité scientifique présidé par Léon Pressuire, professeur émérite à la Sorbonne, et avec des personnalités d'Allemagne, de Turquie, d'Italie, de France, etc., qui ont suivi les travaux. Et nous avons absolument tenu à ce que dans le comité scientifique, il y ait un Bosniaque, un Croate et un Serbe. Pourquoi ? Parce que la philosophie de l'UNESCO, dans tous les conflits, c'est de ne pas continuer à créer des divisions au sein des communautés. Et au contraire, d'essayer, à travers le symbole des monuments, de créer de nouveau une vie normale entre les différentes communautés. Et ce pont, moi je l'ai vu en 2004, quand les jeunes de toute confession, les chrétiens, les musulmans, les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes, ils venaient danser sur le pont. Et ça a été une image très importante. 10 ans après, Madame Irina Bokova est allée à Mostar pour montrer, voilà comment l'UNESCO a travaillé pour essayer de faire en sorte que le patrimoine serve de lieu de contact, de communication. Et ensuite, bien sûr, elle a plaidé pour que le patrimoine, au niveau de l'ONU, soit reconnu comme un élément aussi de développement.
Et vous-même avez été récompensé en étant élu ou érigé, considéré comme ayant intégré la nationalité bosniaque.
Oui, alors ça a été évidemment une surprise. J'ai porté en 2005 le certificat d'inscription du pont de Mostar et de ses environs. On avait restauré à la fois des monuments chrétiens, catholiques et orthodoxes, et les monuments musulmans. Et donc la présidence bosniaque m'a invité à Sarajevo, une grande cérémonie au ministère des Affaires étrangères, pour me dire qu'ils avaient étudié l'histoire de ma famille et ils avaient considéré qu'effectivement, mon origine était de Bosnie.
sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons avec le professeur Mounir Bousnaki de la préservation, de la protection du patrimoine ou des patrimoines au pluriel de l'humanité. Ceux qui sont mutilés méritent restauration, guérison, j'ai envie de dire. Et vous, cher Mounir Bousnaki, vous êtes archéologue de formation, vous avez été longtemps, de 1982 à 2005, à un haut fonctionnaire international et à l'UNESCO. Vous en étiez même le sous-directeur à la culture. Et puis, vous êtes le conseiller des différents directeurs généraux successifs. Vous avez présidé à destinée de l'ICROM, qui est cet institut ou ce centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels. Et vous continuez avec votre bâton de pèlerin à faire en sorte que là où le patrimoine de l'humanité est atteint, d'essayer de le, en tout cas, de le guérir. Peut-être avant de dire encore un mot sur ce qui est proche de nous dans le temps et peut-être même dans l'espace, vous avez joué un rôle dans la restauration de la ziggourate Shogazanbil.
Shogazanbil, en Iran.
En Iran, oui. Parce qu'il en a beaucoup souffert du conflit irano-irakien.
Oui. Alors, j'ai été envoyé en mission immédiatement après la fin du conflit entre l'Irak et l'Iran et nous avons fait un rapport à la fois sur les dégâts qui ont succédé à la fois par les tirs de l'Irak vers l'Iran, mais aussi de l'Iran vers l'Irak, de l'Irak vers l'Iran. Et dans cette visite, on a vu la ziggourate de Shogazanbil, une des plus belles ziggourates de cette région. Qui existe aussi en Irak, bien sûr, dans ce qu'on appelait à l'époque la Mésopotamie. Et j'y ai parlé avec les autorités iraniennes, et notamment avec une personnalité, le ministre Larijani, lorsqu'il est venu à Stockholm, à l'occasion d'une très grande réunion sur culture.
On est en 1998.
Et M. Larijani a été très mal accueilli à l'entrée de la bâtisse, du bâtiment où se trouvait cette conférence. Et on lui a envoyé des œufs à la figure par les opposants iraniens. Mais
d'autant plus qu'il était aussi ministre de l'orientation islamique.
Absolument.
Ça n'a aucun sens, je ne sais pas à quelle orientation islamique il faut avoir.
Absolument.
Mais en tout cas...
Mais j'ai eu la chance donc de m'asseoir avec lui, de discuter avec lui et... Je crois de dire, sans fausse modestie, que j'ai réussi à lui dire à le convaincre et lui dire que c'était important de travailler avec l'UNESCO, de travailler avec les experts internationaux à la restauration de Shogazanbil et de former des praticiens iraniens, ce qui m'a amené à me rendre à plusieurs reprises en Iran jusque aussi lorsqu'il y a eu un terrible tremblement de terre à Bam. Et où là où nous avons deux, avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, et avec la coopération italienne, on a travaillé à la restauration. Et les relations sont devenues extrêmement ouvertes et favorables à la coopération internationale. Encore une fois, le patrimoine a servi de liant, d'éléments qui a permis d'éviter de politiser les situations. Voilà ce que nous avons fait avec Shogazanbil, qui ensuite a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial.
Comment finalement, pour passer à ce qui s'est passé en Afghanistan et la folie des talibans, et surtout la décision prise par ce mollah Omar de détruire les bouddhas de Bamiyan. Racontez-nous, s'il vous plaît, Mounir Bousnaki, comment vous avez tenté, c'est l'institution de l'UNESCO, et pour en tout cas faire en sorte que cette folie meurtrière n'aille pas jusqu'au bout, même s'il y a eu des destructions majeures de ces Bouddhas.
Oui, ça a été une expérience qui malheureusement ne s'est pas terminée de façon positive. Nous avons été informés à l'UNESCO par l'ambassadeur grec à Islamabad, au Pakistan, de cette décision brutale du Mollah Omar, le chef des talibans, du régime taliban de l'époque, en 2001, fin février 2001, décision de détruire les deux plus grandes figures de Bouddha taillées dans la roche dans la vallée de Bamiyan. Et la réaction de M. Matsoura, qui était alors directeur général de l'UNESCO, était de voir de quelle manière on pouvait répondre à cette décision, qui était une décision non pas immédiate, mais qui avait été formulée de façon à ce que la destruction soit faite après la fête
du sacrifice
d'Abraham, qui est la grande fête religieuse dans le monde musulman. Et donc j'avais proposé à M. Matsoura, à l'époque j'étais donc sous-directeur général pour la culture, d'envoyer un émissaire pour parler aux talibans. Et nous avons eu la chance d'avoir l'ambassadeur Pierre Lafrance, qui était également un connaisseur des langues de l'Asie centrale, le Pashtun, le Dari, et qui a immédiatement accepté de se rendre à Kandahar, où résidait Mollah Omar et son gouvernement. Et les autorités françaises, ministère de la Culture, ministère des Affaires étrangères, ont immédiatement aidé à cette mission. Le ministère de l'Intérieur pakistanais, de la même manière. Et il est arrivé quasiment 3 jours après cette décision d'envoyer un émissaire de l'ONU parler aux talibans. Il m'a appelé depuis Kandahar en me disant « Tu sais, Mounir, je ne suis pas la personne parce que les talibans ne veulent pas recevoir de l'argent. » Il y avait une proposition du directeur du Metropolitan Museum de New York, M. Philippe de Montebello, qui avait proposé des millions de dollars en disant « Ne les détruisez pas, je vais les acheter. » Il ne voulait pas d'argent. Il ne voulait pas non plus avoir une reconnaissance de l'ONU. Et il m'a dit « Vous savez, Mounir, c'est uniquement religieux. Et donc, je vais passer par Riyad. » J'étais ambassadeur. Je parle de la France.
Oui.
J'étais ambassadeur à Riyad. Je vais passer à Riyad. Peut-être qu'il y aura un effet sur les talibans.
D'autant plus
sur le plan religieux.
Et je ne sais pas sur quelle base se fondent-ils, je parle des talibans, parce que s'ils tiennent au pied de la lettre un peu à ce que font les pieux anciens, il y a le fameux serment d'Abou Bakr qui consiste à ne pas toucher au monastère, à Uix, ni aux ermitages, ni au lieu de culte, ni même au statut d'autres traditions.
Absolument. Et puis nous étions... En 2001, les musulmans étaient passés dans la période de l'avancée de l'islam en Égypte, en Libye, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne. Il n'y a pas eu de destruction des statues pharaoniques, il n'y a pas eu de destruction des sites antiques de Libye, il n'y a pas eu de destruction en Afrique du Nord. On a par exemple un musée avec des statues magnifiques à Cherchel, l'antique Caesarea. Jamais l'avancée de l'islam n'a porté atteinte au patrimoine.
Y compris parmi les plus fanatisés, parmi eux, j'allais dire.
Mais le problème est que ces fanatiques, et je cite souvent cet exemple, ne se sont pas simplement attaqués au patrimoine antique, mais aussi au patrimoine musulman. Regardez ce que le groupe de Ansar-Din a fait à Tombouctou, dans une ville totalement islamique, la destruction des mausolées, la destruction et aussi la destruction des manuscrits. Heureusement que le directeur du centre Ahmed Baba, qui a été créé par l'UNESCO, a réussi à préserver la majorité des manuscrits. Donc, nous avons eu cette première mission. Quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un problème religieux, alors j'ai contacté le secrétaire général de la Commission nationale égyptienne et je lui ai proposé d'avoir une communication téléphonique avec le président Moubarak et le directeur général de l'UNESCO, Koichiro Matsoura. Cette communication a eu lieu Et M. Matsoura m'a demandé d'être à côté de lui parce que je souhaitais que l'on envoie Cheikh Al-Azhar. Je me suis dit que peut-être en envoyant une des plus hautes personnalités religieuses du monde musulman, les talibans seraient un petit peu affectés dans leur attitude destructrice. On a organisé, grâce à l'ambassadeur du Qatar à l'UNESCO, qui a obtenu un avion spécial, qui a pris... je voudrais d'abord souligner que j'étais présent quand le président Moubarak, que Dieu ait son âme, a dit au directeur général, « Mr. Director General, not only Sheikh Al-Azhar, but also Mufti Masr. » Et il y a eu une délégation de 14 religieux de haut niveau d'Égypte qui sont allés à Kandahar pour parler aux talibans. Ils n'ont pas été reçus par le Mollah Omar, qui les a accusés d'être aux mains des Américains. Et ils n'ont vu que le ministre qui est chargé, d'ailleurs on ne l'appelle pas le ministre des Affaires religieuses, c'est le ministre contre le vice et la vertu. Et finalement, leur mission...
Pour la proscription ou contre le vice et pour la promotion de la vertu.
De la vertu, absolument. Ils sont revenus, et alors là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour essayer d'arrêter cette folie? Et je recevais, bien sûr, les délégations des pays bouddhistes, du Sri Lanka, de Chine, du Japon, de l'Inde, qui me disaient, est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'ai dit, mais écoutez, nous sommes en train de faire... dans un pays dont les autorités ne sont pas reconnues par l'ONU. Et la dernière tentative que j'ai essayé d'apporter dans cette crise, c'était 8 jours au cours desquels on a mobilisé mes collègues. J'ai été aidé par une collègue italienne, Paola Leoncini Bartoli, qui était l'assistante exécutive au secteur de la culture. Et on a appelé l'ancienne présidente du conseil exécutif de l'UNESCO, Madame Atiya Inayatullah. Elle était ministre des Affaires sociales à Islamabad. Je l'ai appelée, je la connaissais, c'est une amie. Et je lui ai dit, écoutez, vous, les Pakistanais, peut-être vous allez pouvoir sensibiliser les talibans, parce que ici nous sommes sous une grosse pression. Et en plus, tous ceux qui venaient me voir, les journalistes, ceux qui intervenaient pour dire qu'est-ce que vous faites, me disaient c'est quand même incroyable que au nom de l'islam on détruise des monuments aussi importants que le Bouddha géant de 55 mètres de hauteur, le second Bouddha de 35 mètres,
le troisième un peu plus loin de 10 mètres.
Oui, et je disais ce n'est pas l'islam, mais malheureusement, Madame Inayatullah m'a dit. Oui, je lui avais demandé un peu la même chose que ce que j'avais dit à propos de Moubarak. Est-ce que le président Musharraf peut parler aux talibans? Et elle m'a répondu, hélas Mounir, le président Musharraf est actuellement à la Mecque pour le pèlerinage, parce que cette fête du sacrifice d'Abraham culmine au moment de cette fête du sacrifice d'Abraham. Mais elle a quand même...
Je veux dire, culmine ou coïncide avec la station sur le mont Arafat.
Sur le mont Arafat, absolument.
De la miséricorde.
Et alors, elle a quand même réussi à convaincre le ministre de l'Intérieur du Pakistan. Ils sont partis à deux à Kandahar. Le Mollah Omar a refusé de recevoir une femme. Il a reçu le ministre et il a dit, et je suis par Madame Inayatullah, il a dit au ministre, vous savez, je ne peux pas changer mon ordre parce que c'est un ordre de Dieu. Voilà comment les Bouddhas ont été vraiment détruits avec uniquement une télévision, Al Jazeera, qui a filmé cette destruction catastrophique des deux Bouddhas de Bamiyan. Et alors, avec le temps, j'ai dit à M. Matsoura, vous savez, on ne peut pas laisser cet acte horrible sans faire autre chose que simplement nous plaindre. J'ai proposé d'organiser une réunion de fuqaha, de spécialistes du droit musulman, parce que je voulais quand même être assuré qu'il y ait des spécialistes, non pas des archéologues comme moi ou des architectes de monuments, non, des gens qui, dans le domaine du droit musulman, peuvent nous dire très exactement quelle est la position du droit musulman vis-à-vis de ce qui vient de se passer. Et on a organisé une réunion à l'occasion de la réunion des ministres de la culture du monde islamique. Ils se réunissaient fin décembre à Qatar.
30 et 31 décembre 2001.
Et j'ai fait inviter par l'UNESCO les représentants des ministères des affaires religieuses depuis le Maroc jusqu'au Kazakhstan. Donc, à la fois des sunnites, des chiites, je connais bien la, évidemment la situation de ce que vous appelez d'ailleurs vous-même, professeur, les mondes musulmans, pas le monde musulman. Et cette réunion a eu lieu pour la première fois en présence de 3 directeurs généraux sous l'égide de l'émir de Qatar, le directeur général de l'UNESCO, Koichiro Matsuura, le directeur de l'ICESCO, qui est l'organisation islamique pour la culture, l'éducation, la culture et la science, avec Dr Abdelaziz oui, Twijri, et l'ALEXO à Tunis, l'organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture, avec le Dr Monji Bousnina. Pour la première fois, ces 3 directeurs généraux sont allés à Qatar. La réunion s'est passée aussi en présence d'un cheikh que j'ai eu l'occasion de connaître, qui s'appelle cheikh Youssef El-Qardaoui. On m'avait d'ailleurs reproché en me disant « mais tu parles à des réactionnaires ». J'ai dit « il faut parler à tout le monde et il faut demander l'avis de tous ceux qui sont considérés comme étant des personnalités ayant la connaissance de l'islam, la connaissance intime de l'islam ». Et nous sommes sortis de cette réunion, à laquelle évidemment j'étais présent, avec une déclaration qu'on a appelée la déclaration de Doha sur islam et patrimoine culturel. Et là, j'avais rencontré des experts qui m'ont dit « mais vous savez, il y a un grand savant musulman au Xe siècle, Al-Biruni, qui est passé dans la vallée de Bamiyan. Il a écrit sur les Bouddhas et il a dit en arabe « Ibra », c'est un exemple
ou un modèle identificatoire.
Donc il n'a pas dit « c'est quelque chose qu'il faut détruire ». Cette année, la conférence générale de l'UNESCO du mois de novembre 2025 s'est déroulée en Ouzbékistan et tous les participants qui étaient là ont assisté à une cérémonie très importante en hommage à Al-Biruni, qui est une des grandes personnalités. Et donc on avait comme cela des exemples à la fois de l'Égypte et aussi de l'Asie centrale où il y a eu bien sûr des guerres, il y a eu, mais jamais le patrimoine n'a été considéré comme une cible.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de patrimoine mutilé à cause de la folie des hommes, à cause du fanatisme religieux aussi. Et nous parlons aussi de la manière de le préserver, de le restaurer, de le protéger avec le professeur Mounir Bousnaki. Mounir Bousnaki est archéologue avant tout, mais c'est surtout un homme de passion. Vous avez été, Mounir Bousnaki, directeur adjoint à la culture, au sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture. Vous avez présidé l'IRCOM, qui est ce centre international qui se trouve à Rome et qui est dans la charge et la conservation et la restauration des biens culturels et aussi les étudier. Vous conseillez les différents directeurs généraux successifs de l'UNESCO et vous présidez le conseil scientifique de la fondation Alif, qui elle aussi est chargée de la préservation et de la restauration des patrimoines. D'abord une question, celui ou ceux qui étaient derrière la destruction des mosquées ou des biens culturels et religieux à Tombouctou, la cité des 333 saints, comme on dit, et des manuscrits, oui, en tout cas par Al-Qaïda au Maghreb islamique et ce qu'on appelle Ansaruddin, qui veut dire en gros les soutiens ou les supporters de la religion. L'un des de leurs responsables a été jugé par la Cour pénale internationale et il a regretté, et en tout cas il a été condamné, et puis il a réalisé dans quel obscurantisme il évoluait.
Tout à fait, et c'était la première fois que la Convention de 54 était appliquée. C'est-à-dire, jamais ceux qui sont les auteurs de ces destructions, qui sont des crimes contre la culture, des crimes contre l'humanité, ne sont poursuivis parce qu'ils disparaissent. Et par contre là, Mahdi El-Fakir a été arrêté. Il a reconnu qu'il était à l'origine des destructions des mausolées de Tombouctou. Et la Cour pénale internationale l'a condamné pour 9 ans pour ces crimes. C'était déjà une première reconnaissance de la part de la justice internationale de ces crimes et de la décision de punir ceux qui en étaient les artisans. On a par contre d'autres exemples. J'ai beaucoup travaillé à partir de 1992, quand le prince Sihanouk est venu voir le directeur général Federico Mayor, après les accords de Paris, sur le Cambodge. Le Cambodge est aussi un pays qui a souffert d'une très longue guerre et d'une guerre interne avec les Khmers rouges. Et pendant cette guerre, il y a eu énormément de vols et de destruction du patrimoine khmer. Et je suis allé, évidemment, à diverses reprises pour la préparation du dossier de classement du site d'Angkor, qui a été, ça s'est fait à Santa Fe, aux États-Unis, en décembre 1992, en présence de Federico Mayor. Et depuis cette date, il y a eu la création d'un comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site d'Angkor, présidé par la France et le Japon, avec la présidence, bien sûr, honoraire du roi, d'abord Sihanouk, puis de son fils, Norodom Sihamoni. Et je travaille avec une équipe d'experts depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. Nous partons chaque année 2 fois, en juin pour les études techniques et en juillet et en décembre pour la présentation des résultats des travaux. C'est un peu l'image d'une grande opération de restauration, de préservation et de présentation d'un grand site qui fait 400 km² avec des temples d'une très grande valeur qui ont été restaurés par les Japonais, les Français, les Allemands, les Italiens, les Indonésiens, les Coréens. Et beaucoup de pays ont participé, un peu comme à l'époque dans les années 60, l'une des toutes premières campagnes internationales de sauvegarde, la sauvegarde d'Abou Simbel et Filé. À l'époque, ce n'était pas la guerre, c'était la construction d'un barrage sur le Nil qui allait inonder tous les temples pharaoniques. Aujourd'hui, l'exemple d'Angkor est aussi un exemple très intéressant de réhabilitation d'un patrimoine pour la population, mais aussi un exemple d'un développement très important sur le plan économique d'une toute petite ville que j'ai connue avec seulement 2 hôtels détruits, l'Hôtel de France et le Grand Hôtel. Mais aujourd'hui, ils ont 150 hôtels à Siem Reap. Et il faut dire que dans cette région, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz. C'est le patrimoine qui est devenu le point de référence pour le tourisme du sud-est asiatique. On a aussi, avec Alif, puisque vous avez mentionné cette fondation, qui a d'abord été...
Dont l'acronyme est...
Alors, c'est...
C'est la lettre Alif.
La lettre Alif, mais c'est l'association pour la préservation, la restauration du patrimoine. Ça a été créé à Abu Dhabi à la fin de l'année 2016, avec la France, à l'époque le président Hollande et l'émir d'Abu Dhabi, ont décidé de créer une fondation dont le nom est Alif, et qui avait pour objectif d'apporter des fonds et d'aider à la restauration du patrimoine dans les zones en conflit. Le premier président de cette fondation, c'est mon ami Jean-Luc Martinez, et j'assure actuellement l'intérim pendant la période où il a d'autres questions à régler. Et je vois le nombre d'actions qui sont faites dans tous les territoires où il y a des conflits, et surtout ceux qui sont les plus proches de nous, le Soudan. C'est une véritable catastrophe humaine, mais aussi une catastrophe culturelle. le musée national du Soudan a été pillé en plein jour par des camions qui sont venus vider le musée national. Ce qu'on a vu aussi pendant les deux années de guerre à Gaza, où le patrimoine a été aussi, en plus de la grave situation humanitaire des femmes et des enfants et des personnes qui sont mortes, il y a aussi le patrimoine culturel. Et l'UNESCO a réussi à inscrire l'année dernière le monastère de Saint-Hilarion d'époque byzantine. Et Alif fait actuellement un effort considérable avec les Palestiniens qui sont à l'intérieur à Gaza et qui essayent de récupérer ce qui reste du Qasr al-Bacha, le palais de l'époque ottomane, la Mosquée al-Omari, les sites archéologiques et bien entendu, je crois que ce travail, une fois que la paix que nous souhaitons tous sera complètement établi dans ce territoire, il y aura un énorme travail, un peu comme celui qui a été fait à Mossoul.
Justement, j'allais vous dire, après ces trésors qui ont été défigurés par la folie d'Al-Baghdadi, qui lui aussi, Dieu lui parle a priori, comment avez-vous fait pour restaurer quasiment à l'identique la mosquée de Mossoul, la mosquée al-Nouri, et son minaret penché?
Oui, alors ça c'est une question qui a été également très importante pour les Irakiens qui ont vu une ville, la deuxième ville d'Irak après Bagdad, totalement occupée par Daesh, avec al-Baghdadi comme l'émir qui dirigeait le groupe.
Le calife.
Et qui s'est donné le titre de calife, effectivement. Et encore une fois, vous voyez, ce lien entre une ascendance et une ressource islamique pour justifier leur présence. Et ce groupe de Daesh a commis des destructions incroyables pour tout le patrimoine de Mossoul et de ses environs.
Et même ailleurs, à Palmyre.
Et ensuite en Syrie. Et là aussi, ça fait partie des missions que j'ai eu à faire. Je suis allé à Palmyre voir la destruction des temples de cette ville extraordinaire qui était une véritable perle sur le plan archéologique, le temple de Bel, le temple de Baal Shamim, l'Arc de Triomphe. Le musée a été dévasté. Et donc actuellement, avec le nouveau gouvernement et les nouvelles autorités, j'ai rencontré à Pestum, il y a deux semaines, le nouveau ministre de la Culture syrien, le nouveau ministre du Tourisme, le nouveau directeur général des Antiquités. Mais j'ai travaillé aussi pendant la période où le patrimoine était, hélas, en Syrie, aussi une cible, avec le directeur général, Mamoun Abdulkarim, docteur d'État de la Sorbonne, directeur général des Antiquités. Nous avons pu faire, grâce au centre qui a été créé par Cheikh Hamay el-Khalifa à Bahreïn, nous avons pu faire des cours de formation aux Syriens au Liban. Alors, pour l'Irak...
Pour revenir maintenant à Mossoul.
À Mossoul, j'ai participé avec le directeur du patrimoine culturel de l'UNESCO, mon ami Lazare Elundu, à une première mission d'évaluation des dégâts. Et ensuite, nous avons travaillé avec les historiens de Mossoul, avec l'Université de Mossoul, avec la Direction générale des Antiquités, à un plan d'action sur la base d'une idée qui avait été lancée par Madame Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, faire revivre l'esprit de Mossoul. Et elle a lancé cette idée avec toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la Bosnie, le fait de restaurer non pas une partie du patrimoine, mais l'ensemble du patrimoine qui est celui de la communauté qui vivait à Mossoul. Donc on a eu 55 millions de dollars des Émirats arabes unis à l'UNESCO qui nous ont permis de travailler sur place avec nos collègues irakiens sur le monument symbolique de la ville de Mossoul, la mosquée al-Nouri du Xe siècle, qui avait été détruite au départ de Daesh, et surtout le minaret, qui était un symbole pour la ville, parce que c'était un minaret penché, et c'était un peu, pour les Mossouliotes, l'image de la tour de Pise. Alors, on a travaillé avec des architectes, avec des ingénieurs de structure. J'étais à Mossoul il y a 2 semaines. Après 4 années de travaux, la mosquée est totalement restaurée et elle est en fonctionnement. Mais on a restauré en même temps 2 églises. L'église de l'Horloge, elle s'appelle l'église de l'Horloge parce que l'épouse de Napoléon III a offert l'horloge de l'église des Dominicains à Mossoul, une très belle église. Elle est totalement restaurée et elle est fonctionnelle. Et j'ai rencontré Monseigneur le Père Najib, qui est l'archevêque de Mossoul et qui est devenu un ami, parce que lui aussi a fait la même chose que nos amis à Tombouctou. Il a réussi à sauver les manuscrits de Mossoul, des milliers de manuscrits, et il les a mis en sécurité à Erbil. Et donc j'ai visité et nous avons aidé le père Najib à digitaliser l'ensemble de ces manuscrits. On a restauré aussi l'église des orthodoxes, Tahira, l'église de la pure, c'est-à-dire l'église de la Vierge. Ces trois monuments ont été entièrement terminés. Avec Alif, nous avons aussi travaillé à la restauration de une des plus vieilles mosquées de la ville de Mossoul, une des plus vieilles églises de la ville de Mossoul. Donc il y a eu tout un travail sur le plan symbolique pour les communautés. Et je peux vous dire que l'image que j'avais de Mossoul comme ville fantôme est totalement effacée aujourd'hui par une ville qui revit.
Et au bout du tunnel, il y aura la lumière. C'est ainsi que s'achève notre émission, tout en vous remerciant vivement, cher Mounir Bousnari. Merci d'être venu nous parler avec tant de passion de ce que vous faites pour la restauration et aussi la préservation de ces patrimoines qui sont quand même bien, même sans le corps, quand même bien culturel et ils appartiennent à l'humanité tout entière. Merci vraiment.
Je vous remercie.
Alors, chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam que vous retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. Prise de son aujourd'hui est assurée par Philippe Thibault. La réalisation est assumée par l'ami François Connac.